Du 16 au 22 mars, c'est la semaine de sensibilisation à la santé du cerveau. Le cerveau, un de nos organes les plus mystérieux qui continue de fasciner les chercheurs du monde entier. On pousse la recherche toujours plus loin pour traiter les tumeurs. On fait la lutte au fléau grandissant de la dégénérescence cognitive. Et on essaie de comprendre l'impact de l'intelligence artificielle sur nos neurones. Ce qui se passe entre nos deux oreilles est source d'encore beaucoup de questions. Et pour nous en parler, je joins le docteur David Fortin, neurochirurgien, neuro-oncologue, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Bonjour.
Oui, bonjour Fabienne.
Donc vous, merci de me recevoir. Avec un grand plaisir, vous passez donc vos journées à opérer un des organes les plus complexes du corps humain. Qu'est-ce qui continue de vous fasciner par rapport au cerveau?
Non, mon Dieu, que dire. Je vous dirais que ça fait 25 ans que je fais ce travail-là. Et puis, après 25 ans, je continue à m'émerveiller devant la complexité et la résilience du cerveau. Il nous reste tellement de choses à découvrir. Je sais que je vais terminer ma carrière et terminer ma vie éventuellement sans avoir, puis loin de là, sans avoir percé tous les secrets du cerveau, de la complexité du cerveau. Juste à titre d'exemple, la conscience, cette propriété que nous prenons tous pour acquis. La conscience, qui est cette propriété-là qui nous permet de réfléchir à nous-mêmes, de ressentir, bref, notre nous, hein, notre moi internalisé, on n'a toujours aucune idée de comment cette conscience-là, elle est produite dans le cerveau. Donc, mystère en voulez-vous, on pourrait en parler pendant des heures.
Ouais. Et c'est ça ce qui, selon vous, demeure le plus énigmatique dans la façon dont notre cerveau fonctionne, c'est la conscience?
Ah oui, moi je vous dirais que c'est probablement sa caractéristique la plus inexpliquée. En fait, il y a même des investigateurs qui se demandent si la conscience est vraiment produite par le cerveau. Hein. Il y a des gens qui se disent que la conscience est peut-être... vous êtes toujours là?
Oui, je suis toujours là, je vous écoute.
Je m'excuse, j'ai un autre appel en même temps, je m'excuse. Il y a même des gens qui se demandent si la conscience ne serait pas en fait une propriété de l'univers que le cerveau capterait. Alors, c'est pour vous dire, hein, on appelle ça le panpsychisme, cette approche-là. Et donc, toujours aujourd'hui, à notre époque, on n'a pas de solution à ce qu'est la conscience, ce qui produit la conscience. Donc, on est loin du compte, là.
J'imagine que vous, comme nous, mais vous qui êtes les mains dans le cerveau presque tous les jours, vous vous posez encore beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des réponses que vous aimeriez avoir plus que toutes?
Ben, en fait, je reviens encore une fois à la conscience parce que pour moi, c'est vraiment le mystère des mystères. Mais je vous parle d'un autre mystère. Hein. On opère des gens, nous, avec des lésions cérébrales, des tumeurs qui sont extrêmement volumineuses dans le cerveau qu'on va retirer. Et ce sont des lésions qui vont souvent infiltrer les structures dans le cerveau. Et malgré ça, les patients vont, bien qu'ils peuvent conserver parfois certains déficits, vont quand même faire une très bonne récupération. Donc, la résilience de cet organe-là est franchement extraordinaire. Dernièrement, il y a un papier qui est paru dans la revue Science où des scientifiques ont pris l'équivalent de 1 mm cube de cerveau. Et dans ce millimètre cube de cerveau humain, ils ont retrouvé l'équivalent de 57 000 neurones. Hein? Pouvez-vous vous imaginer 57 000 neurones dans 1 millimètre cube de cerveau? Et ces neurones-là sont interconnectés de manière si complexe qu'on est encore incapable de la décoder. Et là, je parle de 1 mm cube. Imaginez-vous maintenant étendre ça à l'échelle du cerveau.
Mais moi, ce qui m'impressionne dans ce que vous nous livrez là, c'est que vous dites dans 1 mm cube, il y a 57 000 neurones. Puis d'un autre côté, Vous dites, on peut retirer une partie d'un cerveau suite à une tumeur. Puis, je dirais pas que les patients n'ont rien, mais les séquelles peuvent être minimes. Donc, il y a comme...
Vous relevez exactement ce qui me fascine. Hein, j'ai dans mon prochain livre, j'ai une image d'un patient avec une immense tumeur avant et après la chirurgie, ce qui laisse une cavité très, très volumineuse dans le cerveau. Et ce patient-là avec des déficits mineurs. Et moi, ça me fascine. Je me dis, comment c'est possible que cet organe-là soit aussi résilient? Comment ce patient-là a pu être si peu touché par une chirurgie de cet ordre-là? Et ça nous montre toute la puissance du cerveau, mais ça nous montre surtout que le cerveau, ce n'est pas une collection de modules. C'est un organe qui fonctionne de manière intégrée et intégrale. Hein. C'est un pan-organe, si vous voulez, qu'on ne peut pas décomposer en modules individuels.
Mais il doit y avoir, j'imagine, une part de stress ou d'appréhension, peut-être, quand on opère et qu'on se dit, bon, ben, finalement, j'opère sur quelque chose, sur un organe où je ne sais pas forcément quelles vont être les conséquences.
Bien, on sait quand même. Je veux dire, on a passé tout notre entraînement à comprendre l'anatomie de ce qu'on en sait. Du cerveau, on a passé notre entraînement à voir des situations cliniques X. Donc, on sait quand même assez bien, on est capable de prédire assez bien comment les patients vont s'en remettre. Ceci étant, il en demeure pas moins que le cerveau, comme organe d'une complexité effarante, demeure spectaculaire dans sa capacité de résilience. Mais on est capable de prédire ça, là, comme le patient que je viens de vous mentionner, qui, au réveil de sa chirurgie, avait un déficit visuel, bien, ça, on l'avait anticipé avant, puis on lui avait dit, d'ailleurs, le déficit visuel était grandement présent avant sa chirurgie, mais il n'y avait pas d'autres déficits cognitifs surajoutés. Alors, ça nous montre que le cerveau, je vous dirais, le reste de l'organe est capable de prendre la relève, maintient le fonctionnement cognitif du patient, maintient son unité, sa fonction de... Comment je dirais, sa fonction de conscience. Hein, la fonction de la conscience n'est pas altérée par une chirurgie de cet ordre-là. Puis ça montre que l'organe est extraordinairement puissant. Il reste bien des choses à découvrir.
Oui, oui. Vous avez d'ailleurs écrit 4 ouvrages sur le cerveau. Le prochain sort le 1er avril. Son titre, c'est « Le grand mirage, pourquoi l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain ». Alors pourquoi, en quelques mots, ça ne va pas résumer tout un livre, mais en quelques mots?
En quelques mots, je vous dirais, les machines fonctionnent avec un langage mathématique. Or, je reviens à la conscience, parce que nous sommes conscients et la machine ne le sera pas. La conscience ne se traduit pas en langage mathématique. Ce que vous ressentez en ce moment, moi, je suis pas capable de coder ça en langage mathématique. Les pensées qui vous animent à l'heure actuelle, on peut pas traduire ça en langage mathématique. C'est simple comme ça. Les programmes d'intelligence artificielle font des avancées de géants. C'est absolument extraordinaire comme technologie. On peut pas revenir là-dessus. Maintenant, il faut quand même comprendre les limites de ce que c'est. Ce que ça fait, c'est du mimétisme. L'intelligence artificielle ne compose rien. Elle va se référer à des choses qui ont été composées par des êtres humains, établir des liens statistiques entre les mots, entre les énoncés, entre les concepts, et reproduire ce type de dénoncé-là. L'intelligence artificielle n'invente rien, ne comprend rien et ne ressent rien. Et tant que ça va être basé sur un code mathématique, ça va toujours être le cas.
On pourra encore en discuter pendant des heures. C'est passionnant et mystérieux. Mais je voudrais quand même un petit mot sur les maladies dégénératives. Quelles sont les meilleures façons de protéger notre cerveau?
Gardez votre cerveau en activité. Hein, il y a un petit terme anglophone, là, use it or lose it. Donc, utilisez-le ou vous allez le perdre. Gardez votre cerveau toujours en activité, de un. Puis ça, c'est vrai pour n'importe quoi, là. Que ce soit faire un sport, que ce soit regarder la TV, que ce soit lire. La lecture étant une activité qui est celle qui met le plus en action votre cerveau, le plus en mobilisation. Puis, éviter l'isolement social. Très important d'avoir des contacts sociaux en face à face. Avoir une vie sociale active. Ça, c'est deux aspects qui sont fondamentaux dans la prévention des maladies dégénératives.
On fait travailler son cerveau et on rencontre du monde.
Absolument.
David Fortin, neurochirurgien et neuro-oncologue, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça m'a fait grand plaisir, Fabienne. Merci à vous.